Notre première étape aujourd'hui, la dernière fois nous n'avions développé que le plan, donc notre première étape aujourd'hui c'est quelques réflexions sur cette question, à quel niveau se situe la vie spirituelle? À quel niveau se situe la vie spirituelle? Parce qu'il y a un certain nombre de confusions aujourd'hui et donc les sous-chapitres seront ceux-ci. Il y a trois dimensions dans l'être humain, la dimension physique, la dimension psychique, la dimension spirituelle, c'est pas très original. Ensuite, la question de l'enfermement dans le labyrinthe du monde, si l'on se replie sur la dimension psychique. La question de la confusion entre le psychique et le spirituel, c'est une question très actuelle. Et puis la distinction à faire aussi entre vie intérieure et vie spirituelle. Et puis une toute petite définition de ce que c'est que la vie spirituelle pour dire c'est une vie intérieure qui est éclairée par l'Esprit Saint et qui est conduite par l'Esprit Saint. Alors je vous avais dit, nos soirées sont, commencent par un temps d'enseignement et de méditation. Ce temps d'enseignement est en deux parties. La première, ça va être quelque chose de suivi tout au long de l'année sur la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une vie spirituelle? Comment la nourrir? Comment la développer? Comment la vivre? Et puis, il y a une deuxième partie qui serait quelque chose de plus technique, enfin, si l'on peut dire, de plus concret, directement utilisable, une petite méthode de prière, une petite chose. Aujourd'hui, ça va être la question de commencer par demander l'Esprit Saint. Quand on rentre dans la prière, ne jamais omettre de demander l'Esprit Saint, par exemple. Donc ce point technique n'a pas forcément de lien absolu avec ce qui précède. En revanche, ça peut avoir quelquefois une forte conséquence sur sa propre vie de prière. Alors, essayons de méditer et de réfléchir sur la question des trois dimensions de l'être humain. Je vous disais, c'est pas très original. Le corps est évidemment soumis à toutes sortes d'influences. Le corps peut être malade, le corps souffre. Quelquefois, ça retentit à ce point sur la dimension psychique et spirituelle que ça nous empêche, par exemple, de prier. Ça ne nous empêche pas d'avoir une vie spirituelle, mais ça peut nous empêcher de prier. C'est pas forcément la même chose. Le corps vieillit, le corps s'affaiblit, le corps meurt. Évidemment, le monde dans lequel on est tout à fait centré sur la vie du corps, sur le bien-être du corps, et il accorde sa foi à la médecine, et il gomme cette réalité inéluctable, à savoir la mort qui nous attend tous. D'ailleurs, c'était un petit peu curieux de constater à la télévision ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez vu, pour la mort de Steve Jobs, je suis un de ses fans d'ailleurs, puisque je suis équipé en Macintosh, en iPhone et autre chose comme ça. Et Steve Jobs, dans l'extrait qu'on nous a montré à la télévision, faisait un discours de réception pour peut-être un doctorat honoris causa ou je ne sais quoi, dans une université américaine, et il parlait de la mort. Il parlait de la mort alors qu'il n'était pas encore malade, mais il disait, au fond, la chose la plus importante dans la vie, c'est la mort, et la mort est une chose inéluctable et nécessaire pour la vie. Ensuite, il a eu ce cancer, et puis il est mort récemment. Et donc, mais c'était assez intéressant de voir que c'est cette prestation de Steve Jobs qui était passée à la télévision. Voilà, donc en ce qui concerne la vie du corps, on ne va pas en parler longuement, c'est pas nécessaire. La question du psychisme ou de la psyché, ça comprend les émotions, les sentiments, l'imagination, le mental. C'est un domaine qui est mouvant. C'est un domaine qui est agité, qui est incertain. C'est un domaine qui est extrêmement mouvant. C'est-à-dire que si on veut baser sa vie spirituelle sur le ressenti, par exemple, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, On va être totalement sur des sables mouvants. C'est quand même un domaine plein de richesses et il désigne une personnalité avec sa sensibilité, son univers particulier, sa couleur particulière. Mais le domaine de la psyché est fragile et volontiers troublé. C'est pour ça que les grands docteurs mystiques de l'Église ont toujours été extrêmement méfiants. Prenez Saint Jean de la Croix par exemple, recherchez sur mon blog les textes sur Saint Jean de la Croix que j'ai mis en ligne, vous verrez, il est vraiment extrêmement catégorique sur la question de tout ce qui peut être imaginatif, tout ce qui peut être des visions, des auditions, des phénomènes sensibles dans la vie spirituelle. Vous entendez mal? Non, ça va. Il est extrêmement négatif sur ces questions en disant rien, précisément. Rien. Il faut se détacher de tout cela car ce n'est pas fiable. Le psychisme peut être atteint par des maux divers, des maladies mentales. Il peut être voilé par la tristesse. Il risque de s'effondrer dans le désespoir et la folie. Il demeure fluctuant et clair-obscur. Et sur le psychisme, on ne peut pas bâtir grand-chose. Alors, il est vrai qu'avec les psychothérapies aujourd'hui, eh bien, on essaye de dégager le plus lourd, de clarifier le plus opaque. Un travail qui s'avère sans fin, qui fait la fortune de tous ceux qui se déclarent psychologues et médecins de l'âme. Et on mesure ici combien le soutien psychologique dont on parle aujourd'hui tellement, au fond, eh bien, est un leurre, puisqu'encore une fois, la psyché, le psychisme, c'est vraiment un lieu intermédiaire sur quoi rien ne peut se construire, mais qui, au contraire, a besoin lui-même d'être soutenu, soit par le corps, soit par l'esprit. Donc la véritable dimension spirituelle de l'homme s'appelle l'esprit, ou on pourrait dire l'âme, si vous voulez. Seulement, le mot âme en grec, ça se dit psyché, donc c'est mal choisi. Donc on parlera de l'esprit, mais si vous avez cette catégorie dans la tête, mettez à la place le mot âme, si vous voulez. C'est ce qui désigne la véritable dimension spirituelle de l'homme, la fine pointe de l'âme. Ça a peu à voir avec l'intellect. Cela figure la parcelle divine impérissable en l'être humain. C'est un don direct de Dieu. Lorsque un enfant est conçu, Dieu lui-même donne l'âme immortelle qui anime ce corps. C'est quelque chose de mystérieux, mais la foi chrétienne nous fait dire cela. Dieu lui-même anime ce corps par le don de l'âme, qui n'est pas directement dans l'acte co-créateur de l'être humain. L'esprit n'est jamais affecté, ni malade, l'âme. Hein. Quoique, personnellement, j'aurais plutôt tendance tout de même à dire que certains traumatismes occultes, par exemple, certains impacts occultes, provoquent comme des fissures à l'intérieur même de la personnalité spirituelle de la personne. Mais enfin, c'est une autre question. En tout cas, l'esprit est véritablement ce qui traverse le temps, ce qui couronne l'édifice intérieur. Il est l'unique point d'ancrage, il éclaire tout et apte à tout transfigurer. Et ce qui est caractéristique de l'âme, de l'esprit, c'est la joie et c'est la liberté, et même on pourrait dire la juvénilité. Ce sont ses manifestations propres. Nicolas Berdaïev, un russe penseur du XXe siècle, dit « L'esprit ignore la vieillesse, l'esprit c'est la jeunesse éternelle ». Ainsi, nous pouvons côtoyer des personnes qui sont extrêmement âgées dans leur corps et qui cependant manifestent une jeunesse intérieure de l'âme extraordinaire. Donc seul l'esprit est garant de la vie immortelle. Alors toute personne a la possibilité d'explorer et d'alimenter les trois parties qui le constituent, comme l'être entier, le corps, le psychisme et l'esprit. On peut s'intéresser uniquement à son apparence et à sa force physique. On peut chercher à prolonger sa vie biologique, on peut vouloir guérir de tout et même faire machine arrière et rajeunir, et surtout jouir de tous les plaisirs procurés par les sens. C'est ce à quoi nous engage le monde aujourd'hui. L'être humain peut s'attacher aussi à toutes les émotions, à tous les sentiments qui le traversent et l'agitent, à vouloir y mettre de l'ordre et de la clarté, à développer la confiance en soi, à maîtriser la vie, à souffrir le moins possible et à recevoir un nombre de gratifications. Mais ça, c'est une démarche psychique, psychologique et psychique. Enfin, l'être humain est libre de partir à la découverte de son être profond et de nourrir sa part spirituelle qui l'invite à la joie. Et ce à quoi l'homme s'identifie durant sa brève existence, soit le corps, soit le psychisme, soit l'esprit, c'est ce qu'il aura le plus développé, c'est précisément ce qui restera de lui après le trépas. Et ça, c'est fondamentalement exact, je pense, et vertigineusement inquiétant quand on constate que certaines personnes ont vécu véritablement, quelquefois, de longues années uniquement aux vies, au niveau animal, au niveau du corps. Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel », autrement dit, accordez toute votre attention et vos soins au bien immatériel, à votre part spirituelle, sur quoi les voleurs ni la mort n'ont prise. Alors c'est intéressant aussi d'aller chercher dans la sagesse antique un certain nombre d'auteurs pour voir par exemple que Porphyre, qui est mort en 305 et qui était disciple d'un philosophe romain qui s'appelait Plotin, qui a marqué la philosophie. Porphyre affirme ceci: « Notre véritable moi, c'est l'esprit, et la fin que nous recherchons, c'est vivre selon l'esprit. » Donc vous voyez, ce n'est pas une perspective exclusivement chrétienne. Même la sagesse antique avait perçu cela. Donc toute dérobade s'avère impossible, soit je vis selon l'esprit, soit je vis ou je survis en l'absence de l'esprit, en l'absence de l'âme, par ignorance ou par négation de celle-ci. Et dès lors, je demeure dans des régions inférieures, physiques et psychiques de l'humain. Donc il n'y a pas de moyen terme, soit on néglige son âme, soit on prend soin d'elle, soit on se hisse vers l'esprit, soit on se cantonne dans le psychisme. Et un homme mortel ne saurait marchander avec Dieu. Il n'est aucune négociation avec l'absolu. D'où l'intransigeance de Jésus que l'on remarque dans l'Évangile, qui nous dit par exemple que votre oui soit oui. Alors Dieu sait qu'aujourd'hui, même dans l'Église, c'est un point très difficile. Qui veut sauver sa vie la perdra, etc., etc. Donc pour chacun de nous, l'indispensable tâche, c'est de séparer en nous-mêmes le bon grain et l'ivraie. Réfléchissons un moment sur la question de l'imbrication du psychique et du spirituel. C'est important. Considérer aujourd'hui l'être humain comme on le fait actuellement uniquement sous des aspects physiques et psychiques, c'est le mutiler. Bon, ça nous le savons bien, quelque part, inconsciemment. Mais nous nous habituons tellement à la chose. C'est le mutiler de sa meilleure part, celle qui est apte à savourer l'éternité. Et en le restreignant à une dimension historique, sociale, en le maintenant au niveau de l'espèce, même si on y ajoute l'éthique, les droits de l'homme, les bons sentiments, la sauvegarde de la planète, combattre la faim dans le monde, faire une société centrée sur les choses durables, équitables, etc. On voue cet animal raisonnable à la poussière irrémédiable. Je crois que c'est du replâtrage, toutes ces choses. L'être spirituel, c'est celui qui renonce à ses appétits primaires afin de rencontrer sa véritable identité, qui est la noblesse de sa nature divine. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu dont parle la Genèse. Et c'est cette verticalisation, cet arrachement au temporel et au biologique qui est important, mais qui ne doit pas cependant nous entraîner à mépriser le corps ou bien à rejeter nos ressources émotionnelles et affectives. Parce que nous ne sommes pas un pur esprit, mais un homme de chair et de sang, nous sommes incarnés. Et donc, mais voilà, chaque chose a sa place. Les bleus à l'âme, les états d'âme, le vague à l'âme, qui sont le lot de toute créature, relèvent en fait du domaine psychique et non pas spirituel. Ah, j'ai pas envie de prier. Ah, je me sens triste. Ah, etc. Oui, mais ce sont des phénomènes essentiellement psychiques qui peuvent avoir une racine spirituelle, c'est entendu. Mais d'abord psychique. Donc la confusion continue d'être bien entretenue entre l'âme et l'esprit, en particulier par des thérapeutes qui se font passer pour des maîtres spirituels, mais qui ne travaillent qu'au niveau psychique. D'où alors les inévitables dérives sectaires dans lesquelles la volonté de puissance d'un individu profite du mal-être et de la crédulité des adeptes. Donc j'insiste un petit peu, c'est que l'homme charnel ne peut avoir part à la vie éternelle. Jésus le dit dans cette formule lapidaire à Nicodème, vous connaissez bien, « Ce qui est né de la chair n'est que chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus dit cela à quelqu'un qui était un intellectuel brillant, un rabbin, Nicodème, et pourtant il ne semble pas comprendre comment un homme âgé peut naître à nouveau. Et pour le pharisien, cette nouvelle naissance évoque un phénomène biologique étrange, un retour dans le ventre de sa mère. Bon, ce que les psychanalystes et psychologues ou autres disent, nomment le regressus adulterum. 19 siècles plus tard, les psychanalystes en font encore les chantres. Et Nicodème se réfère donc uniquement au plan horizontal, tandis que Jésus ne cesse d'indiquer la voie verticale. Donc la confrontation risque de durer encore longtemps. Grâce au progrès de la science, l'homme charnel peut allonger la durée de son existence, se prémunir contre les maladies, ruser avec le temps. Il peut aussi se prolonger avec une descendance en laissant sur terre des traces. Mais tout ce qui en lui est périssable disparaîtra. Reste la seule voie qu'indique au pèlerin le mystique germanique du XVIIe siècle, Angelus Silesius, « Tu n'iras pas au ciel, pourquoi tant agiter ?» avant d'être d'abord toi-même un ciel vivant. Tu n'iras pas au ciel avant d'être toi-même un ciel vivant. Beaucoup de gens sont enfermés dans un labyrinthe aujourd'hui. Dès qu'on perd de vue ou que l'on nie la dimension verticale de l'être humain, on est voué à tourner en rond dans le labyrinthe du monde. Le prisonnier décide alors de profiter de la vie, de se faire plaisir, les slogans obligés des sociétés matérialistes. Mais parfois, l'angoisse le saisit de façon vertigineuse et il se demande alors comment sortir du labyrinthe, comment guérir de sa finitude. Quelquefois, il tente de s'adapter, il aménage sa prison pour aller mieux, pour occuper son temps. Il entreprend de se raconter, de ressasser ses misères, ses problèmes, ses désirs. Il brasse sa soupe dans le grand chaudron, en attendant quelques recettes miracles, un nouvel ingrédient qui lui permettra d'avaler le breuvage de l'existence. Il est bien évident que les thérapeutes et tous ceux qui sont payés pour l'écouter, cet homme-là, tentent de lui fournir quelque apaisement. Certains brandissent la méthode dernier cri la plus efficace pour guérir ou pour être heureux. D'autres prodiguent des conseils flatteurs comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'importance de s'aimer soi-même, le recours au féminin ou à l'enfant intérieur. Mais la sortie du labyrinthe, cette issue ou plus exactement ce salut ne se trouve absolument pas dans le brassage psychologique ni même dans une thérapie réussie, mais bien dans le fait de quitter l'homme psychique, enfermé dans son moi malheureux et plaintif, d'abandonner le vieil homme avec ses vieilles douleurs, englué dans le passé, prisonnier de ses liens familiaux. Beaucoup de souffrances pèsent sur beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur existence, mais il est urgent de rappeler qu'il n'est de fin à la misère que par le seul recours à l'âme et à l'Esprit Saint, appelé l'Esprit Consolateur. Seul le moi spirituel est à l'abri de toute souffrance. Il est relié à l'être divin. Avançons encore dans la réflexion pour faire une distinction en disant il faut distinguer vie intérieure et vie spirituelle. Parce qu'elles sont souvent prises comme synonymes, parce que derrière vie intérieure, on comprend une quête de profondeur. Mais il y a une nuance, car c'est celle qui sépare l'intimité de l'intériorité, ou encore la vie privée du secret du cœur. La vie intérieure, aujourd'hui, risque d'être assimilée à un repliement sur soi. Mais en fait, la vie spirituelle, elle, correspond à un déploiement de soi. Au sens strict, la vie intérieure, c'est d'ordre privé par rapport à la vie publique ou collective. Et elle comporte des sentiments, des émotions, des aspirations, des valeurs morales, des réflexions personnelles que l'on garde pour soi ou que l'on partage avec ses proches. Mais la vie spirituelle, quant à elle, concerne une personne particulière, mais elle la dépasse aussi dans un désir d'accomplissement par-delà l'humain et des normes terrestres, dans une visée d'éternité. Pour la plupart des personnes qui nous entourent, réussir sa vie, cela veut dire avoir une vie affective heureuse et harmonieuse, et une vie professionnelle gratifiante. Mais sur le plan spirituel, l'enjeu premier n'est pas de former un couple et d'avoir des enfants, ni d'être reconnu en ce siècle, dans cette société, et d'y prospérer. L'essentiel, c'est d'aimer et d'œuvrer à la lumière de l'éternité, à la lumière de l'éternel. La vie intérieure ne dépasse guère la subjectivité, ou ne la dépasse que pour s'intéresser au général dans un souci d'ordre éthique. Par exemple, les générations futures, l'avenir de la planète, la paix dans le monde, etc., comme on disait déjà tout à l'heure. Mais la vie spirituelle, elle, tend vers l'intemporel et vers l'absolu. C'est pourquoi notre société aujourd'hui, qui est orpheline de toute transcendance, n'est capable de proposer que du durable à ses citoyens, le commerce équitable, éthique, là où une expérience spirituelle ouvre au sentiment d'éternité, à la justice infinie, à l'amour infini. La vie intérieure se rattache à une personne et à une existence particulière, tandis qu'une vie spirituelle, tout en étant unique et singulière, s'achemine vers celui qui est la source de l'être, Dieu, vers l'ordre divin. C'est l'âme qui joue la musique de l'Esprit Saint, et il est autant d'interprète que l'âme. Mais c'est l'âme d'abord qui joue la musique de l'Esprit Saint. Donc si l'on cherchait une définition de la vie spirituelle, on pourrait dire que la vie spirituelle, c'est une vie intérieure soulevée par l'Esprit, qui se déploie par la puissance de l'Esprit Saint, qui est éclairé par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint, et qui s'oriente vers la transcendance. Nous dirons, nous, vers la Trinité, en tant que chrétiens, mais d'autres cultures, d'autres religions parleront de Dieu, de la Déité, de l'être divin, de l'Absolu, de l'Éternel, de l'Un, du Réel. En tout cas, vivre l'intériorité n'oblige pas à s'enfermer chez soi, à se couper de toute relation, ou entrer au couvent, heureusement, sinon ça se saurait, mais cela requiert de quitter toute passion mondaine, de ne pas s'attacher à l'extériorité, à tout ce qui est factice, superficiel, éphémère. Il faut donc faire un partage entre le superflu et l'essentiel, entre les mirages de ce siècle et l'unique nécessaire. La marche alors deviendra beaucoup plus légère, car la vie intérieure a pour sens de rayonner sur les autres, sur le monde, donc elle n'est pas un refuge, elle se révèle ouverture infinie. Alors ce texte n'est pas de moi à proprement parler, il faut toujours rendre aux auteurs ce qui leur revient. Il y a un très beau livre qui est paru il y a assez peu de temps, de Jacqueline Kellen, qui est une femme qui est écrivaine, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Bréviaire du colimaçon ». Ça n'a l'air de rien, Bréviaire du colimaçon sur la vie spirituelle, aux éditions des Clés de Brouwer. Et donc ceci, c'était extrait du premier chapitre. On poursuivra la prochaine fois avec d'autres angles de vue, si vous voulez. Mais je voudrais maintenant venir à la deuxième partie, rapidement,